En une du Parisien ce matin, Hervé, bonjour.
Bonjour.
Il y a donc ce chiffre cité à l'instant par Charles Bonner, plus 1000%, c'est la progression des actes antisémites en France depuis le 7 octobre, date des attaques du Hamas en Israël.
Statistiques glaçantes, en effet, issues du rapport annuel du CRIF que le Parisien dévoile en avant-première avec cet autre chiffre. 1676 actes antisémites ont été recensés dans notre pays en 2023, 4 fois plus qu'en 2022. Plus de la moitié de ces actes relèvent des atteintes aux personnes, donc des violences ou des menaces. Plus d'un tiers ont lieu dans la sphère privée, au domicile ou près du domicile ou sur le lieu de travail. Plus d'un cinquième ont lieu sur la voie publique. Ces données correspondent aux plaintes enregistrées par le ministère de l'Intérieur, mais elles n'incluent pas les signalements à la plateforme Pharos de propos illicites tenus sur les réseaux sociaux. Sinon, on parlerait en dizaines de milliers, dit Yonatan Arfi, le président du CRIF.
Le Parisien parle d'un déferlement de haine qui s'insinue partout.
Noé, trentenaire parisien, évoque les petites insultes, les sales juifs qu'il s'entend souffler à l'oreille dans le métro. « J'ai l'impression de devoir regarder par-dessus mon épaule quand je sors de chez moi », témoigne-t-il. À Fontaine, dans l'Isère, Salomé et Bertrand ont trouvé leur appartement saccagé et une inscription « Mort aux juifs » taguée dans le salon avec une croix gammée, sans doute parce qu'ils portent un nom juif inscrit sur leur boîte aux lettres. À Grenoble, un lycéen a crié « Nique les sionistes » à son prof de philo qui porte lui aussi un nom juif. Ce type d'agissement est devenu presque banal. Les actes antisémites à l'école ont augmenté de 1200% en 2023. Selon la chercheuse Nona Meyer, spécialiste de l'antisémitisme, les auteurs de ces actes immondes, quand ils sont connus, sont surtout des jeunes hommes sensibles à ce qui se passe en Palestine du fait de leur origine, de leur religion ou de leur positionnement politique à l'extrême gauche.
Ils ont souvent du mal à la situer sur une carte, la Palestine, mais ça c'est un autre sujet. En écho à ces chiffres terribles, Le Point consacre sa couverture aux derniers escapés de la Shoah.
Avec le visage aux yeux doux de Marie Weisslick, 93 ans, déportée en 44 à l'âge de 14 ans et revenue des camps. Et cette citation, « Je ne croyais pas revivre cela, je pensais que c'était terminé ». Le Point a recueilli son témoignage et celui d'autres survivants. « L'horloge tourne, ils vont bientôt partir », écrit le journal. Ils ont consacré une partie de leur vie à raconter le pire, mais aussi l'espoir à des écoliers et dans des livres. Ils avaient lutté pour survivre, ils luttent depuis contre l'oubli, l'incrédulité, la lâcheté de ceux qui ne veulent pas savoir. À Souillac, ma ville natale, les têtes se détournaient, raconte Jean Laforie, 100 ans, revenu de Dachau. Même ma mère, qui voulait prendre en note mon récit, s'est arrêtée à la 3e page. Mon petit Jean, ce n'est pas possible, tu racontes n'importe quoi. Edith Bruck, 92 ans, rescapée d'Auschwitz et devenue poétesse, dit vouloir raconter aux jeunes ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui arrivera, dans le sens où la tragédie continue sous une autre forme. Dans d'autres endroits, pour des raisons différentes. Cette barbarie, dit-elle, n'a pas de fin.
Dans le magazine Challenge, il est question non pas du passé, mais de l'avenir. La solution de la crise énergétique passerait par les petites centrales nucléaires.
Et c'est un autre nonagénaire qui prend la parole. Claude Perdriel, propriétaire et directeur de Challenge, mécène, ingénieur et homme d'affaires, un jeune homme de 97 ans qui s'enflamme pour cette cause. Pour éviter la catastrophe climatique sans provoquer un désastre économique, la solution, écrit-il, ce sont des petits réacteurs nucléaires de nouvelle génération à neutrons rapides et à sel fondu, faciles à protéger et qui peuvent être construits en série. Cette technologie qui règle le problème des déchets radioactifs et produirait de l'électricité encore moins chère que le nucléaire d'aujourd'hui, de nombreux chercheurs français la maîtrisent. Espérons que pour une fois, on va les écouter, écrit le patron de Challenge. Il appelle l'État, avec EDF, à prendre en main ce chantier et à assumer sa responsabilité comme il l'a fait pour Notre-Dame de Paris. Challenge consacre un dossier de 30 pages à ce sujet. C'est à la fois de la science, de la technologie, de la géopolitique, du business et surtout de l'optimisme. C'est passionnant et revigorant.
Comme l'enthousiasme d'ailleurs de ce jeune homme de 97 ans, Claude Perdriel, qui s'intéresse à tout et à l'avenir. Encore de l'économie et encore des perspectives d'avenir. Le mensuel Choiseul publie un palmarès des entrepreneurs qui pensent le monde de demain.
Choiseul, c'est le numéro 2 de ce mensuel qui ambitionne d'être le magazine de la relève. Il consacre sa couverture à Pierre-Édouard Stérin, milliardaire français et philanthrope, qui raconte son parcours, ses 30 start-up et sa vingtaine d'échecs avant de connaître le succès. Et ce classement, donc, plutôt un tableau d'honneur de jeunes créateurs d'entreprises, la plupart peu connus ou pas du tout, mais qui ont réussi en voyant loin du financement participatif à l'habitat durable, de la biochimie au recyclage alimentaire. C'est à la fois un concours d'inventivité et un hommage à la prise de risque. J'ai déniché dans la liste le concepteur d'un jeu de football virtuel dont la société a réussi la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French Tech, 580 millions d'euros quand même, et une pionnière de la brosse à cheveux et du soin capillaire, ce qui n'empêche que l'ensemble est assez décoiffant.
Une revue de presse au poil, donc. On termine avec une
innovation. Par les cheveux, David.
Ouais, je sais, c'est un peu nul. Allez, on termine avec une innovation scientifique qui, d'après la presse britannique, pourrait permettre de sauver les rhinocéros blancs.
C'est le Guardian de Londres qui en fait état, et c'est en français sur le site de Courrier International. En 2018, le dernier mâle de l'espèce rhinocéros blanc du Nord est mort, en laissant derrière lui deux femelles sans doute éplorées et malheureusement infertiles. L'extinction de cette race semblait donc inéluctable. Or, les biologistes d'un laboratoire financé par le gouvernement allemand ont réussi à transférer des embryons sur l'espèce voisine des rhinocéros blancs du Sud. Le Washington Post précise que 30 embryons ont été créés à partir du sperme d'un rhinocéros du Sud et d'ovocytes prélevés sur les deux dernières femelles du Nord. J'espère que vous me suivez. L'espoir est que ces embryons puissent un jour être implantés par insémination artificielle dans une femelle rhinocéros blanc du Sud pour permettre la naissance de spécimens du Nord. Une première tentative a été réussie, figurez-vous. Hélas, la mère est morte d'une infection bactérienne alors que le fœtus avait 70 jours. Ce bébé est la preuve de tout, a déclaré le chef du projet. C'est surtout la preuve que l'être humain ne sait pas que détruire, comme on le dit souvent, mais aussi inventer, sauver et préserver.
La revue de presse d'Hervé Gattegno, et je vous conseille à ce titre la lecture aujourd'hui dans le Figaro de la chronique de notre ami Luc Ferry, qui appelle de ses voeux un ministère de la condition animale, sans doute pour améliorer...
Pour sauver les rhinocéros.
Entre autres, mais en France ce sera plutôt les chats et les chiens, et puis les vaches, et puis les conditions d'abattage évidemment. Le végétarien de service est ici, dans ce studio, c'est Franz-Olivier Gisbert, ami des animaux. C'est notre esprit libre du jour. À demain.